17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce numéro spécial des grands témoins. Aujourd'hui, Jacques Cheminade. Bonjour Jacques.
Bonjour, bonjour Nasser.
Bon, c'est un vrai plaisir que de vous recevoir. Alors on va aborder bien sûr le conflit du Proche-Orient, la guerre israélo-palestinienne et non pas la guerre entre l'armée israélienne et le Hamas.
Ça, c'est la guerre organisée par l'oligarchie financière internationale.
C'est se moquer des gens quand on présente les choses comme ça. Donc quelle solution, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc., tout ce qui est autour. La redistribution des cartes avec la multilatéralité et puis les facteurs de régulation comme l'ONU, comme d'autres facteurs qui sont en train d'agoniser et dont en tout cas les grandes puissances s'assiedent dessus, notamment depuis Trump qui a dit que ça servait à rien, et même d'ailleurs De Gaulle à l'époque il l'appelait le grand machin. Donc on parlera aussi de ce monde multipolaire qui est en train d'émerger avec des choses comme le BRICS. Hein, qui sont en train d'apparaître, mais apparemment qui est déjà mourant avant de vivre, donc on va en parler. Et puis, vous êtes d'origine argentine, vous êtes né en Argentine, et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on parle un peu de l'Amérique du Sud, et puis des récentes élections en Argentine. Je rappelle que vous êtes président du parti Solidaire et Progrès. Vous allez nous dire un peu où en est un peu ce parti aussi. Et donc c'est un vrai plaisir que de vous recevoir, parce que votre expertise, votre éclairage nous sont utiles pour nous et bien sûr pour les auditeurs et les auditrices. Et merci d'être là. Tout d'abord, la première question, Jacques Cheminade. Vous, qui avez quand même un peu d'expérience, quand vous regardez dans le rétroviseur, on a construit un monde qui devait être un monde de paix. Or, on recense aujourd'hui sur la planète 35 conflits, de vraies guerres, avec des gens qui se tuent. Hein. On rappelle que la guerre, c'est un massacre de gens. C'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et qui ne se massacrent pas, hein, pour reprendre cette formule. Il y a à peu près entre 35 et 40 conflits. Quand vous voyez la planète, ce qu'elle est devenue, on devait avoir une planète en paix après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous analysez ça?
C'est une oligarchie financière qui aujourd'hui a un pouvoir mondialiste et qui porte la guerre comme la nuée porte l'orage, comme le disait Jaurès en son temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette oligarchie ne produit pas de la richesse réelle, elle produit du capital fictif. Et ce capital fictif, elle en produit de plus en plus. C'est l'analyse des derniers livres de Marx sur crédit et capital fictif, sur ce quoi il avait raison. À mon avis, sur d'autres points, il n'avait pas raison. Mais sur celui-là, il a tout à fait raison. C'est qu'on produit de l'argent sans qu'il aille dans l'économie physique réelle. Donc, à partir de là, on crée une économie qui va à l'encontre des peuples. Et à l'encontre des peuples, on fait une économie de guerre, parce qu'on est obligé de chercher ailleurs les moyens de piller pour entretenir ce système. Donc cette économie de guerre, Emmanuel Macron l'a dit, et une économie de guerre, c'est une économie qui va faire la guerre. Et on le voit en Ukraine, on le voit en Israël et Palestine. Donc cette économie de guerre est dans le réarmement, le monde entier est dans le réarmement. Donc on est devant un risque immédiat de guerre qui peut dégénérer en guerre mondiale jusqu'à une guerre nucléaire. Ça ne veut pas dire que ça arrivera. Si on fait ce qu'il faut et si on se bat, ça n'arrivera pas. Mais il y a cette possibilité réattente que les gens commencent à ressentir confusément. Ils ne savent pas très bien ce que c'est, mais ils voient que quelque chose menace.
Donc vous inscrivez un peu en faux sur la théorie de Kant, qui parle de paix perpétuelle. Vous connaissez son traité sur la paix perpétuelle. Donc ça veut dire qu'on est jamais en paix, mais on est dans un climat de non-guerre. C'est plutôt ça, non?
Alors non, parce que la paix, qu'est-ce que c'est? C'est pas la paix qu'on décide entre diplomates, entre juristes, s'ils sont nécessaires. La paix, c'est la justice. Justice et paix. Et la justice, c'est assurer le développement économique mutuel et la sécurité mutuelle. C'est pour ça qu'on atteint. Au niveau, avec mon parti, Solidarité et Progrès, il n'est pas moi, avec Solidarité et Progrès et l'institutionnaire international, nous défendons une coalition internationale pour la paix, en disant: assez de massacres, assez de dépenses militaires. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une politique de développement mutuel contre la dépopulation, pour une politique d'accueil. Et je reprends, pour mes amis qui sont de confession juive, je reprends le très beau texte d'Avos Père, reçoit tout homme avec un beau visage, qui est dans les monothéismes latents, c'est dans le monde musulman, c'est dans le monde catholique, chrétien, je dirais plutôt, c'est dans le monde grec, on a toujours cette vision que c'est l'autre et il faut donner au visage de l'autre. Aujourd'hui, on est complètement dans la vision différente. Et on dit liberté, 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 mais c'est une liberté pour opprimer l'autre. On fausse le sens des mots.
Alors, il s'est tenu, il y a quelques jours, le sommet de Bakou des non-alignés. On est encore dans ces sommets qui ont essaimé des années à la fois de lutte pour les indépendances des pays, notamment africains et d'Amérique du Sud. Et puis, on a des rencontres aussi en Asie, autour de l'organisation de la conférence islamique. Ça a encore du sens, ces réunions de non-alignés, conférence islamique, Ligue arabe. Ça a du sens quand on voit que l'empire qui est fait les États-Unis avec leurs amis, l'Angleterre, l'Europe, le Japon, le Canada, une partie de l'Amérique du Sud et une partie de l'Asie, personne ne peut damer le pion à cet empire. Cet empire est encore très vivace et personne ne peut le défier. Ça a du sens ce genre de réunion, Ligue arabe, organisation de la conférence islamique, organisation des pays non alignés, ça a du sens.
Il ne faut pas voir les réunions comme des choses en soi, il faut voir une dynamique. Et la dynamique, c'est des pays qui ne veulent plus être opprimés. Ils sont très différents, c'est pas du tout uniforme, mais il y a les pays qui veulent récupérer le contrôle, en particulier de monnaie nationale. C'est la dédollarisation. Et pour moi, la dédollarisation est liée à la décolonisation. C'est deux choses qui sont fondamentales. Alors, qui se bat pour ça? Et on le trouve en Russie, on le trouve en Chine. Des gens qui réfléchissent à pourquoi l'Inde et la Chine ont relativement réussi. Tout est relatif, hein, par rapport aux pays occidentaux, dans la période récente. C'est Sergueï Glazyev, qui est le ministre des Affaires eurasiennes et de la macroéconomie en Russie. Il n'est pas du parti de Poutine, hein, mais il est quand même ministre, il est obligé de voir cela. Et il réfléchit à la dédollarisation. Et il a dit lui-même, comme mon ami américain Lyndon LaRouche, est l'homme qui avait réfléchi à l'économie physique et comment unir d'une certaine façon, tous ces pays sans uniformisation, pour une économie de l'avantage mutuel, du développement mutuel et de la sécurité. Et c'est cela qui est latent dans toute cette exigence des pays du Sud. On le voit, par exemple, de façon claire chez Dilma Rousseff, qui préside la nouvelle banque de développement des BRICS, et qui l'a dit, il faut sortir du dollar. Alors, elle peut peu en sortir, elle est coincée, c'est vrai, vous avez raison, c'est difficile. Il y a des choses qui sont faites en renminbi, j'espère que ça se fait un jour en monnaie brésilienne, en monnaie argentine, peut-être, quand il n'y aura plus Millet. Mais il y a cela latent. Alors, les États-Unis, d'où ils tiennent leur puissance, de la doctrine anglaise qu'ils ont adoptée, du colonialisme anglais, c'est divisé pour régner. Et vous savez, un jour, un Français, Michel Poniatowski, avait dit son jeu préféré, mon jeu préféré en l'enfance, c'est jeter des fourmis rouges contre des fourmis noires. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Or, ce développement dans les pays du Sud, que nous appelons, moi je l'appelle le Sud planétaire, on a fait une conférence à Strasbourg sur ça, récemment, avec l'Institut Schiller, ça veut dire que on se rassemble, pas pour la géopolitique où quelqu'un cherche à rafler toute la mise, mais on se base pour un intérêt mutuel, ce que les Chinois appellent, il faut les prendre au mot, un système gagnant-gagnant. Pas un système où il y a un gagnant et des perdants, pas un jeu, mais somme nulle, comme on nous le décrit, mais un jeu où il y a un avantage mutuel de développement. Et c'est un pari. Et c'est dans ce sens qu'un monde multipolaire peut aller vers quelque chose de commun, opposé au monde unipolaire, anglo-américain, dans lequel la France de Macron est le parfait complice. Disons, c'est pas Macron lui-même, c'est tout un système qui accouche de cette complicité, qui est la vieille tendance coloniale française.
Jacques Cheminade, est-ce que vous ne retombez pas dans le piège historique des intellectuels de votre genre, qui est de répéter de façon incantatoire cette espèce de rejet de l'oligarchie, de la finance, des armées et tout. Parce que quand vous parlez de la Chine et du Sud planétaire, ces pays-là écrasent leur société civile, n'ont pas d'opposition politique. Est-ce qu'ils sont crédibles? Parce que finalement, comment vous pouvez persuader les gens qu'il y a un espoir dans ces pays-là lorsque eux-mêmes, à l'intérieur de leur constitution, de leur force, les contre-pouvoirs n'existent pas? Alors qu'est-ce que vous avez, eux, d'abord, qu'est-ce qu'ils ont comme crédibilité pour offrir une alternative? Et vous, qu'est-ce que vous avez comme crédibilité pour les valider?
Alors, je les valide pas, je suis pas pro ceci ou pro cela, je me rallie à personne, c'est mon identité. Mais, j'analyse une situation. De Gaulle disait, on évalue les États et pas les systèmes politiques. Donc, qu'ont les États, la Chine ? Qu'est-ce qui donne sa crédibilité ?
Ouais, vous savez que 800 les États, millions, 900 millions d'habitants. Pour paraphraser quelqu'un, ce sont des monstres froids.
Ce sont pas des monstres
les
froids.
Les États sont des monstres froids. Ils ont comme horizon, ils ont
dans
le territoire,
mais,
la prédation,
mais il y a une différence, etc. Lorsqu'il y a des germes de république dans ces États, et la république, c'est
Ça, c'est autre chose.
C'est le souverainisme, et le vrai souverainisme, que l'on triche complètement en France, hein, le vrai souverainisme, c'est servir le peuple et les générations futures. Alors, les Chinois disent servir le peuple. Prenons-le au mot, et voyons qu'ils ont arraché 800 à 900 millions d'habitants à une misère absolue en 30 ans.
Souverainisme ou nationalisme ?
Alors, le nationalisme, c'est quand on rejette l'autre parce qu'on est soi-même dans une imaginaire.
C'est la haine des autres.
Le souverainisme, c'est on aime les autres et on leur donne l'inspiration. De Gaulle a un discours très intéressant que j'ai cité ici devant l'Alliance française pendant la guerre. Et De Gaulle disait, la France se doit au monde, elle manque au monde parce que la France était occupée, mais pour être elle-même, elle doit admettre les influences de l'autre et les prendre en elle-même pour se changer. Aujourd'hui, la France, il y a une part de la France qui est juive, qui est musulmane, et c'est pas seulement la France chrétienne ou catholique de M. Éric Zemmour. Ça, c'est tricher.
Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut pas dire plutôt qu'il y a une France qui est musulmane, une partie de la France qui est musulmane ou juive ? La France, elle est républicaine.
Oui, bien sûr, elle est au-dessus de la républicaine et laïque.
Pourquoi avancer
parce que
le bouddhisme, l'islam, le judaïsme ? Pourquoi ? La France, elle est républicaine.
Oui et non. Elle n'est pas aujourd'hui.
Elle a comme étendard, surtout, un truc qui la dissocie du monde entier, c'est la laïcité.
Oui, mais dans le principe, elle est une dictamole aujourd'hui. Et la laïcité est trahie à chacun, partout. On met sous cette étiquette un faux universalisme qu'on utilise, même sous des prétextes coloniaux. Regardez Marine Le Pen, elle a tout le temps la bouche laïcité, laïcité. C'est un faux. Et on est dans un monde de faux et usage de faux. J'en parlerai plus tard sur l'Argentine.
Mais là, est-ce que vous faites pas encore le jeu de cette dictature dont vous parlez à l'instant, qui dit, finalement, vous voyez, regardez, vous critiquez votre système démocratique, vous critiquez votre laïcité, nous, laissez-nous monter tranquillement notre système politique, on va faire notre démocratie à notre façon, et laissez-nous tranquilles avec vos modèles. Vous faites pas leur jeu, là.
Alors, ces modèles, on a triché. C'est M. Tony Blair, qui est... excusez-moi, j'ai parfois des mots un peu durs, qui est une crapule. M. Tony Blair, qui a dit, plus de traité de Westphalie, il faut plus d'État-nation, plus de médiation vers ce qui est un développement mutuel. Et qui a ajouté, responsabilité de protéger quoi ? Les intérêts de l'oligarchie.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan.
Oui, toujours avec Jacques Cheminade, le président du parti Solidarité et Progrès. Il devient quoi, votre parti, Jacques ?
On ne vous voit
jamais sur les plateaux de télé.
Non, parce qu'on ne veut pas.
On vous voit jamais
personne,
à la une du journal
personne,
Le Monde,
personne
à la une du
passe.
Journal Le Figaro.
Non,
qu'est-ce qui se passe ?
Je suis mis en dehors parce que cette forme de pensée qui adhère, je pense, aux valeurs de ce que devrait être réellement un islam mutaziliste, qui devrait être ce qu'est un christianisme social, celui du sillon, sur lequel, dans l'idée de participation de Goldman part, et les vieux communistes, qui croient vraiment.
Vous êtes toujours du côté des gens qu'on massacre.
Non, ça c'est dehors.
Vous êtes toujours du côté des gens qu'on massacre. Les mutazilites, ils ont été massacrés. Les chrétiens sociaux, ils ont été massacrés. Les communistes, ils ont été massacrés. En fait, vous êtes toujours du côté des gens qui se font massacrer.
Non, parce que ce sont des gens qui, bien que s'étant fait massacrer, ont marqué l'histoire de l'humanité. Et donc, vous et moi, on ne serait pas
vous,
là.
Bien sûr, ils portaient la vérité.
On ne serait pas là.
Une forme
ils portaient
de vérité,
la vérité, comme disait l'autre.
C'est ça. Tout récemment, vous êtes d'origine argentine, hein, bien sûr.
On sait
bien. Et là, récemment, on a eu un président. On ne sait pas comment l'appeler, parce que est-ce qu'il est libéraliste, est-ce qu'il est d'extrême droite, est-ce qu'il est de droite. Bon, beaucoup de gens l'appellent le loco, le fou. C'est d'abord un. Qui est ce personnage qu'on connaissait pas beaucoup, on l'a vu dans les buts en train de jouer au foot, mais est-ce qu'il est symptomatique d'une évolution de l'Argentine dans un problème ? Est-ce qu'il ne rejoint pas les Bolsonaro, la Colombie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une droitisation en Amérique du Sud comme ça se passe aujourd'hui en Europe ? Regardez les élections en Hongrie, en Pologne, récemment en Hollande, en Belgique même il y a une grosse poussée xénophobe, en France France, bien sûr, aussi, en Italie, avec la nouvelle première ministre. Qu'est-ce qui se passe en Argentine?
Alors là, il faut vous laisser un moment, parce que c'est très important, et ça nous concerne en Europe.
Et souvent, l'Amérique du Sud a été, ce qui s'est passé en Amérique du Sud a rejailli en Europe.
Oui, bien sûr. C'est un terrain d'essai.
On est sur Beurre FM, on est dans une radio, et moi, je connais bien l'histoire des radios, et il se trouve qu'en Bolivie, la Bolivie a été un des premiers pays à faire les radios un peu, entre guillemets, privées, locales, etc., pour avancer sa lutte pour la démocratie. Ah. Et donc, l'Amérique du Sud nous enseigne aussi des choses parfois.
Ah, dans une condition paradoxale,
c'est intéressant de vous
le
écouter.
Le grand défenseur d'Evo Morales.
Ouais, absolument.
Qui représente un esprit qui est souvent pas très clair, mais c'est très intéressant de voir Arce, par exemple, le président, qui maintenant, au nom de la terre et des intérêts boliviens, défend le nucléaire. C'est très intéressant. Enfin, ça prend contre-pied complètement d'un écologisme dévoyé. Donc, pour l'Argentine, je reviens. Milei. Argentine, 146% d'inflation. On ne croit plus au peso, tout le monde transforme le peso en dollars. Et 50% de gens en dessous du seuil de pauvreté, dans un pays les plus riches du monde en ressources naturelles. C'est un scandale total. Une mauvaise gestion absolue. Donc il faut accuser les errements d'abord du péronisme. Et les errements sociaux, politiques qui ne tiennent pas compte de ce qui était vraiment l'intérêt du pays. Il y a eu énormément de corruption. Mais c'est pas tout. Milei est propulsé, c'est un ancien joueur de football. C'est un ancien rocker, il était rock'n'roll, et c'est un professeur d'université. C'est une synthèse, hein, Milei. Et on le lance, ça fait 3 ans seulement qu'il a été lancé sur la scène publique, pour écarter le dialogue politique de toute forme rationnelle et de lancer une société entièrement émotionnelle, sous lequel mot liberté. Et c'est très clair, son parti s'appelle La Liberté Avance, et le parti de Bullrich, qui est la ministre, l'ancien ministre de la Sécurité de Macri, Patricia Bullrich, c'est Union pour la Liberté. C'est la fausse liberté. Et une liberté au nom de laquelle on dit tout dialogue politique, toute vision républicaine, c'est du faux, c'est la liberté, et c'est la liberté qui doit tout conduire. C'est le like et le dislike dans les réseaux sociaux, c'est la même chose. Et au nom de ça, Milei se trouve propulsé sur la plaine publique. Alors il réussit, y compris dans les bidonvilles, à Buenos Aires, parce qu'il a créé une confusion totale et que les gens en ont marre du système en place.
Parce qu'il revendique la liberté, mais on a des pans entiers de la société qui sont dans des situations de non-droit, qui sont dans des situations de pauvreté, de non-accès au logement. Donc, oui, c'est une liberté emblématique, mais avec des populations...
Non, mais ça n'a rien à voir avec la liberté.
Oui, c'est ça.
Au sens où Schiller ou Victor Hugo conçoit la liberté, ou la République conçoit la liberté. C'est une liberté de la réaction individuelle, de l'émotion, poussée par la société des écrans, contre les mots. Si vous voyez Trump et Milei, ils décomposent le langage. Il est à la tronçonneuse, hein, il a parlé avec la tronçonneuse, hein, tout est, et ici la Banque Centrale, ici tout ça. Donc, il y a tout ça, il y a cette décomposition. Mais au nom de quoi? C'est la dollarisation de l'économie, plus de pesos, le dollar, et plus de relations avec les principaux clients et partenaires de la Chine, de l'Argentine, qui sont la Chine, la Russie et le Brésil. Et tout à fait contre le Brésil et contre ce présent Lula. Alors Lula n'est pas parfait. C'est quand même quelqu'un qui a fait de la prison, qui a un sens des réalités, qui s'est battu, et qui est l'ami de Dilma Rousseff, qui préside la nouvelle banque de développement des BRICS.
Non, mais au moins, donc, Lula, on a l'impression qu'il y a un cap.
Oui, il y a un cap.
On a l'impression qu'il y a une cohérence, alors qu'avec le précédent, c'était...
Mais là, il y a un cap, hein. C'est d'accoucher d'un système dans lequel tout ce qui est en Argentine latent d'un fascisme viendra au pouvoir sous une forme de conservateur. Vous voyez les gens qui sont dans le petit bistrot à côté de la Casa Rosada, de la Maison Blanche argentine, qui discutent entre eux. C'est le grand propriétaire terrien. Hein. On appelle là-bas le parti d'Ovacuno, le parti des propriétaires des troupeaux, qui possèdent le soja, le maïs et le blé. Ces gens-là disent « Non, Milei, il est mal élevé. » Non, mais il nous le faut. On a besoin d'un homme comme ça. Que disaient von Papen et compagnie dans l'Allemagne nazie?
On incarne plutôt une espèce de tribalisation. C'est la logique de l'entonnoir. C'est-à-dire, à terme, c'est l'opposition des gens, c'est la dictature. Qu'est-ce que vous dites, vous? Pas de liberté pour les ennemis de la liberté? C'est ça que vous dites?
Non. C'est pas ce que dit Milei, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Et ce que disait Jaurès, hein, ce qui protège, c'est la loi, ce n'est pas la liberté. C'est la liberté de faire n'importe quoi, et c'est l'oligarchie financière et
c'est
ses intérêts.
C'est la loi et le droit.
Et ils ont besoin d'un pitre comme Millet pour faire accoucher de leur système. Macri, Mauricio Macri, qui était l'ancien président, et Patricia Bullrich, c'était sa ministre de la Sécurité. Ils ont la sécurité, hein. Sous Millet qui paraît dans la sécurité et tout le reste, ils ont soutenu Millet qui les a remerciés publiquement. Donc il ne veut plus rien à faire avec les BRICS, ses amis, c'est Trump et Bolsonaro, c'est eux qui lui ont écrit pour le féliciter. Donc c'est ça qui se met en place, et ça vient en France, ça vient en Europe, je peux vous en parler plus tard, mais et c'est comme la reine romaine, les likes et les dislikes, et Millet. On exclut toute légitimité scientifique et rationnelle dans le débat public, et on substitue la séduction du pouvoir et l'injonction au narcissisme.
Jacques Cheminade, quand on voit l'Argentine et le Chili, historiquement, ce sont des pays qui ont eu des dictatures, qui se sont battus, qui ont resté une forme de démocratie.
Le Chili, c'est différent.
Une nation. Il y a eu la théologie de la libération, etc. À l'opposé de pays comme le Guatemala, la Bolivie, la Colombie, où ce sont des cartels, on est encore dans la tribalisation de groupes qui s'affrontent. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? C'est des modèles, un peu, l'Argentine et le Chili.
Alors, ce qui arrive est très intéressant.
Ils sont sortis du néant et de la nuit coloniale.
Même les pays près de Rio Grande, et on a dévalué, désarticulé complètement la doctrine de Monroe de 1823. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Protéger de la part des États-Unis, à l'époque, hein, contre le colonialisme européen. Puis on l'a désarticulé jusqu'à que Theodore Roosevelt vienne et s'est dominé toute l'Amérique latine. Donc dominer en particulier les pays proches de la frontière. Mais ces pays-là même se dévoltent. Regardez le Honduras, regardez le Nicaragua. On va avoir une conférence nous-mêmes, notre institut Scheller, au Nicaragua, pour la paix et le développement dans la liberté. Donc ça, c'est la vraie liberté, hein, c'est pas celle de Milei. Et on voit tout un mouvement qui se met en place de réaction. C'est ça qui est très intéressant. Y compris même au Venezuela, malgré les errements de Chavez et son manque de sérieux, on a dans la société vénézuélienne une pulsion comme dans l'hondurienne, comme même au Guatemala, une pulsion qui s'oppose à ce que cette prison qu'on leur a imposée. Parce que il y a la prison à ciel ouvert qui était Gaza, mais la prison à ciel fermé des pays d'Amérique centrale. Hein. Moi, j'étais coopérant français au Honduras, et j'étais considéré, l'ambassade américaine ne me recevait jamais, j'étais considéré comme un malfaiteur, pratiquement, par les autorités, et j'organisais des bourses pour aller en Europe, en matière scientifique, et en matière de, je dirais, de tout ce qui relève du droit, le droit et la science, parce que c'est ça, la base de la liberté, dans un pays contrôlé. Et c'est frappant, parce que les États-Unis se réservaient leur pouvoir. Il y a de l'or, il y a de l'uranium dans ces pays, mais ils ne l'exploitent pas, parce que c'est leur pouvoir pour après. Donc vous avez une notion coloniale captatrice qui est en place. Et il y a une révolte contre ça dans tous les pays du Sud. C'est ça l'intérêt de ce qu'ils appellent le Sud global. Moi, j'appelle ça le Sud planétaire ou le Sud collectif. Il y a une révolte contre ça. Et ça, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et il faut l'organiser, lui donner les moyens de penser.
Pour vous, le BRICS, c'est une bonne chose
Oui, bien sûr. C'est une bonne chose, mais à condition...
C'est des pays qui n'ont rien en commun. Ni système politique, ni stratégie.
Ils ont
rien
en commun. Quelque chose
en dehors du rejet ou de la lutte contre l'Empire.
Ils ont le rejet, et dans ce rejet...
Est-ce que ça suffit, ça ?
Ils veulent des monnaies nationales. Et la monnaie nationale, pour moi, sortir du dollar, c'est une première étape très importante. Le dollar n'est pas une monnaie américaine, hein. Attention, c'est la monnaie des marchés financiers internationaux. Les États-Unis sont un pays occupé, la France est un pays occupé, même la Grande-Bretagne est un pays occupé par ses intérêts financiers qui jouent entièrement une économie de court terme et... progressivement, qui la jouant, émettant de l'argent, sans émettre de richesse physique, d'économie physique ou humaine, mène à la guerre. Et tout ce qui s'oppose à la guerre est à prendre aujourd'hui. C'est pour ça que nous organisons avec l'Institut Schiller une coalition internationale pour la paix.
On se retrouve dans un instant pour parler de la Palestine.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan.
Oui, on se retrouve avec Jacques Cheminade, président du Parti Solidarité et Progrès. On était en Amérique du Sud, on parlait des récentes élections en Argentine, et puis de ce sud collectif, de ce sud global, de ce sud planétaire, comme vous l'appelez. Et donc, vous trouvez dans les choses comme le BRICS ou ces grandes réunions...
un potentiel.
Des signes d'espoir et d'espérance.
Un potentiel.
Un potentiel. Vous êtes un optimiste.
Non. Je vis dans l'espérance.
Dans l'espérance.
Il ne faut pas attendre d'espérer pour entreprendre, en plus.
Pourquoi les pays d'Amérique du Sud n'arrivent pas à créer les États-Unis d'Amérique du Sud, comme il y a une Europe ou comme il y a les États-Unis du Nord ? Pourquoi ça...
Parce qu'ils ont essayé avec le Mercosur, et ça a été détruit. C'est détruit de l'extérieur.
Il y a un fond commun, quand même. Il y a une culture, il y a des langues, il y a des choses en commun.
Oui, mais il y a une occupation anglo-américaine qui essaye de dissoudre tout ce qui est national. Vous savez, il y a un très beau roman argentin où on voit des anarchistes révoltés en Patagonie et on voit arriver un bateau qui les mitraille. Et on lève le drapeau et c'était le drapeau britannique. Donc il y a cette tendance-là historique de la colonisation britannique en ignore, en particulier en Argentine. Et la guerre des Malouines, c'est la grande contradiction. Voilà des militaires, les gorilles, qui font la guerre contre des Britanniques qui sont les occupants. Et des deux côtés, on a un système qui...
Et d'ailleurs, le nouveau président argentin, un de ses modèles, c'est Thatcher, c'est Margaret Thatcher.
Ah, c'est Thatcher, bien sûr, c'est pas seulement Thatcher, parce qu'il est en confusion totale. C'est Thatcher, Churchill, De Gaulle, et je ne me rappelle plus qui, et Trump. Il mélange tout, parce que ça crée une espèce de méli-mélo dans lequel les gens sont dans la confusion. Alors, il n'aura pas la majorité à la Chambre. Donc, il fera la politique, en réalité, de l'oligarchie conservatrice. Et une partie de son programme ne marchera pas. Par exemple, il dit qu'il est contre l'avortement parce qu'il faut respecter le droit de l'enfant. Tout ça, c'est du blablabla pour attirer un
électorat. Jacques Cheminade, vous êtes argentin, vous êtes Amérique du Sud, vous connaissez bien la situation. On a vu aux États-Unis et au Canada, on voit des nominations qui sont dirigées vers ce qu'on appelle des gens, les peuples premiers, c'est-à-dire les premiers habitants. On voit le ministère de l'Intérieur, on voit la présidente au Canada, la présidente du Canada du Commonwealth. Est-ce que les pays d'Amérique du Sud n'ont pas encore réglé cette histoire ils n'arrivent pas à digérer à la fois le fait qu'ils ont été colonisés, on se rappelle les missionnaires, les exterminations, et ils ont du mal à faire nation. Est-ce que ça pèse pas dans leur cheminement, le fait qu'ils n'ont pas réglé leur histoire culturelle?
Excusez-moi, mais l'Amérique du Nord est en train de se décomposer, elle aussi. Tout est faux dans cette doctrine du woke, du respect des peuples indigènes et tout ça, c'est faux. Et vers le faux, c'est comme Millet en Argentine sur la liberté. On prétend ça, mais il n'y a plus un sens de comment, ensemble, on va améliorer, réparer le monde et le refonder. Il n'y a aucun sens de cela. Donc ça se dissout dans les folies de Trump et de Robert Kennedy, qui maintenant dit la Chine c'est l'ennemi, il est pour Israël, et tout ça, même Robert Kennedy, qui trahit dans ce sens-là l'héritage de son père et de son oncle. Donc on a une décomposition intérieure aux États-Unis, il ne faut pas le négliger. Quand George Arrow, qui a été notre ambassadeur là-bas, aux États-Unis, il est en train de dire « Le grand problème de la France, c'est qu'elle ne prend pas en compte la décomposition de l'Occident. » Eh bien, il a parfaitement raison. Ça ne veut pas dire que ce soit bon, la décomposition de l'Occident. Parce que moi, je pense qu'en monde multipolaire, c'est très bien, mais il faut un dessin commun. Et ce dessin commun, ça doit être le développement mutuel, ça doit être une nouvelle architecture financière, monétaire et culturelle. Il faut une culture de la vie et du développement. Et ça vient de racines qui sont à la fois des monothéismes, qui doivent s'exprimer sous une forme laïque, ça doit être délibéré sous une forme laïque, et du courant socialiste dans l'histoire, incomplet, mais qui a des pulsions de cela. Et toutes ces pulsions doivent se rassembler pour constituer une opposition à ce pouvoir hégémonique qui est en place aujourd'hui. Alors je vous dirai autre chose, Milei, vous pouvez en rire, et c'est quelque part dans son comportement, c'est un fou. Mais c'est pas un fou dans les conséquences de son comportement et dans ceux qui le contrôlent. Mais il y a autre chose. Il y a Sam Altman, c'est le dirigeant d'OpenAI. Vous avez foutu à la porte d'OpenAI, revenons maintenant avec Bill Gates. Ces gens-là, avec l'intelligence artificielle, qui serait une très bonne chose pour nous libérer des tâches répétitives et stupides, mais qui est aujourd'hui utilisée comme instrument de contrôle. Et il est là, cet instrument de contrôle, pour l'avenir. Et vous voyez, depuis vase qu'on utilise dans le trafic, bon, qui est une première application utile, mais quand même qui dirige les gens dans un certain sens, dans toute voiture qui prennent la même route, et on veut faire la même chose avec les êtres humains, et dire on va remplacer le système de connaissance humaine, de développement, par un système logique qui sera pas seulement dans la déduction et l'induction, qui sera génératif. Et avec ça, on va les tenir. Et c'est ce que dit Yuval Noah Harari, quand il dit on a un monde futur dans lequel on va tenir les gens, bon, on va détruire les emplois, mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut tuer les gens, mais c'est pas bien. Si, on peut tuer les Palestiniens, mais ça va. Mais on peut pas tuer les autres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les immerger dans un océan d'expériences virtuelles et les entretenir comme ça, en dehors de la démocratie, de la vraie démocratie, parce que la vraie démocratie, c'est la recherche de la vérité, la recherche du bonheur et la recherche de la connaissance et la recherche républicaine de faire une république meilleure à l'avenir que celle d'aujourd'hui.
Vous parlez à l'instant de la Palestine. J'aimerais qu'on termine sur ce conflit israélo-palestinien depuis 70 ans. Comment expliquer qu'un pays, Israël, n'exécute aucune des résolutions de l'ONU, s'assoit sur toutes les résolutions internationales, fait la guerre comme il l'entend, pratique une politique d'apartheid, n'est pas une démocratie, comme on le chante en permanence sur les plateaux de télévision, qui est une théocratie qui inspire son fonctionnement sur les lois fondamentales de la Torah, qui vient de couper la tête à la Cour suprême, puisqu'elle a fait une réforme de la justice où ce sont les intégristes religieux qui ont pris possession de l'État israélien. Comment expliquer ce dernier morceau de colonialisme où on extermine un peuple, où on prend sa terre avec 500 000 colons en Cisjordanie qui devaient faire partie du futur État palestinien, avec des colons à Jérusalem-Est, où il y a quelques années, il y avait encore 700 000 Palestiniens à Jérusalem-Est, il n'en reste plus que 300 000. À petit feu, des villes sont renouvelées comme Haïfa, Ashkelon, Jaffa, qui étaient des villes palestiniennes, où maintenant ce sont des villes israéliennes, et maintenant on trouve ce qu'on appelle des Arabes israéliens qui n'ont aucun droit ni d'acheter de la terre, ni d'acheter d'appartement, ni d'avoir accès à certaines fonctions, que ce soit public ou autre. Comment expliquer ça, Jacques Cheminade ?
Parce que l'oligarchie européenne a voulu empêcher une intégration de tout le Grand Orient, allant de la Syrie, la Grande Syrie, on pourrait l'appeler, jusqu'à l'Égypte. C'était le plan de Mehmet Ali et son fils Ibrahim Pacha, dans les années 1830-1840. Très vite, on se réunit à Londres, et à Londres, on dit il faut empêcher ça. Comment on va faire? Il faut introduire quelque chose au milieu. Et à terme, et ça prendra du temps, ça prendra Sykes-Picot, je vous rappelle, Picot a signé avec un stylo et Sykes avec un crayon. Ah, les Anglais. Et la déclaration Balfour. Donc, peu à peu, on injecte des Juifs, et on l'a fait à partir, en particulier, de la Deuxième Guerre mondiale, où on ne voulait pas de ces Juifs en Europe parce qu'ils étaient révolutionnaires, parce qu'après ça, les socialistes, on n'en voulait pas du point de vue européen. Donc, on les embarque là-bas. Et on les utilise, et ce n'est pas la faute des Juifs. Hein. Encore une fois, Ben-Gurion ne pouvait probablement pas faire autrement. Et on l'injecte là-bas comme tampon entre la Syrie et l'Égypte. Et on crée cela. Et cela, c'est une création qui devient de plus en plus coloniale. Ben-Gurion, même en 1848, après la victoire des Israéliens et la Nakba, Ben-Gurion dit c'est un État juif et démocratique. Et l'arabe est langue publique. Après, on annule tout ça avec Netanyahou. Yitzhak Rabin est assassiné en 1993. Et qu'est-ce qu'on met? Netanyahou, qui lui, avec le vote de la Knesset en 2018, c'est un État du peuple juif Israël. C'est-à-dire là, ça devient un État, la tyrannie d'une minorité ethnique. Et c'est là, il y a ce passage. Et rien n'a jamais été fait aux États-Unis, en France, en Allemagne, pour empêcher ça. Les vrais coupables sont là. C'est dans ces pays-là qui ont entretenu cette situation.
Et qui n'ont aucun respect
du peuple palestinien.
C'est la culpabilité de la Shoah? C'est la culpabilité de l'extermination?
Non. Ils n'ont aucune culpabilité, ces gens-là. Non, c'est de créer un tampon pour empêcher le développement d'une région du monde. Ces gens-là, ces intérêts de l'oligarchie, sont anti-développants. Ils ont bien voulu développer l'Allemagne après la guerre, en condition d'en faire leur instrument. Mais il ne développe que contre l'URSS. Aujourd'hui, toute l'Europe est en train de se détruire et de s'autodétruire avec les Américains, grâce aux sanctions contre la Russie. On est en train de détruire l'Europe, c'est la grande victoire des Américains. Et l'Allemagne, le cerveau même qui a cumulé le savoir, est en train de se désintégrer de l'intérieur, à cause de l'énergie, à cause de l'imbécilité de son gouvernement, etc. Donc on a cette vision de détruire pour permettre, c'est l'économie de guerre, hein, qui passe à la guerre et au réarmement, de détruire pour garder le pouvoir. Et ça, c'est l'idée en Israël. Je vais vous dire une chose qui est très importante, c'est que en Israël, il y a quelque chose qui s'appelle le groupe Jorge. Georges, fait Jorge comme en Argentine. Et c'est un groupe qui est chargé de tricher dans les élections et d'organiser le hacking de tous les électeurs. On n'en a jamais parlé, c'est beaucoup plus sophistiqué tout ce qui peut venir de Russie. Et ils commercialisent ces services et ils sont enregistrés auprès du ministère de la Défense israélien. Alors, il faut voir comment fonctionne Israël. Vous avez des soldats, ça marche très bien. Hein. Vous avez des soldats, on prend les plus intelligents, tout le monde va à Tsahal, ils restent à peu près 3 ans, ils sont formés, les plus intelligents sont dans les services intellectuels, dans pas intellectuels, mais dans l'informatique, l'automatisme et tous ces secteurs-là liés à la guerre et liés aux armes. L'autre aspect, c'est le nucléaire. Et tous ces gens-là sont sélectionnés pour travailler de façon intégrée avec les États-Unis. Alors on dit tout vient d'Israël, c'est faux. C'est organisé pour venir de là en partie et de fonctionner avec cette oligarchie financière qui, aux États-Unis, moi je l'appelle, excusez-moi, frimpute.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, c'est le 51e État des États-Unis?
Quelque part, oui.
C'est la 51e étoile?
Mais c'est aussi une grenade dégoupillée lancée au Moyen-Orient. Alors, si elle éclate, tant pis pour eux.
Pour terminer, les perspectives, Jacques Cheminade, tout le monde pérore de façon incantatoire, solution à deux États, ça on dit ça depuis 70 ans, mais rien n'est fait pour vous.
Pour moi, la vraie solution à terme, c'est un État. Bien sûr, c'est Edouard Saïd et c'est Barenbaum, c'est leur orchestre de jeunes Palestiniens, de jeunes Israéliens. Pour moi, c'est
marrant. Alors, il est où
c'est impossible aujourd'hui.
Il est où ce territoire? En Cisjordanie et à Gaza?
Non. On ne peut pas faire un État. Alors, quand on dit deux États. C'est vrai, il faudra faire deux États au point où on en est. Mais pas avec Cisjordanie et Gaza, une autoroute au milieu. Il faut un État intégré dont on assure le développement économique. Et ça, c'était inscrit quelque part dans l'annexe des accords d'Oslo. Ça, on l'oublie complètement. Donc, aujourd'hui, il faut donner aux Palestiniens, pas leur donner de l'argent, mais il faut leur donner les moyens, l'infrastructure, les moyens de se développer. Sans ça, il n'y a pas deux États et un territoire intégré. Ça suppose dehors tous les colons de Cisjordanie, qui sont comme, je dirais, des punaises de lit sur un drap. Il faut les sortir, excusez-moi de l'image.
Donc un État intégré, avec une continuité territoriale.
Avec, il faut savoir quelque chose que mes amis ont étudié de près, c'est que 75% du territoire occupé par Israël, on peut dire occupé, hein, n'a pas été développé. Donc on peut en faire un État palestinien avec la Cisjordanie. Et rappelez-vous, Gaza, c'est abominable. Il y a toutes les histoires de Gaza au 19e siècle, les citronniers, les orangers, hein, au bord de mer, un pays de développement plus beau que le Languedoc, etc. Et ça, on a détruit, et c'est une politique qui commence par des crimes de l'humanité, des crimes de guerre, puis le génocide.
Et on oublie trop souvent de dire aussi, Jacques Cheminade, que le Fatah, que l'organisation de la Palestine, c'est une organisation démocratique. On retrouve des femmes, on retrouve des chrétiens, on retrouve des juifs, on retrouve des musulmans, que les Palestiniens ont une énorme culture, et que ça aussi, c'est jamais mis en avant, mais on aura l'occasion
et
de
si
revenir dessus.
Et si vous voulez deux minutes, je voudrais vous dire sur le Hamas.
On a terminé.
Je voudrais vous dire quelque chose sur le Hamas.
Allez-y, très, très rapidement.
Le Hamas avait, dans sa charte de 1988, l'expulsion de tous les juifs. Ils ont changé, et ils ont tendu avec celui qui a organisé d'ailleurs l'opération, Yahya Sinwar. Ils ont préconisé que la création d'un État palestinien indépendant et doté de pleine souveraineté, avec Jérusalem pour capitale, sur les lignes du 4 juin 1967. Donc ils ont admis les lignes du 4 juin 1967. Et avec le retour des réfugiés et des déplacés, bien sûr. Non, Israël ne l'a pas voulu et a préféré essayer de manipuler Hamas contre l'autorité palestinienne, diviser pour régner et faire la catastrophe dans laquelle aujourd'hui. Et merci, c'est voulu par Netanyahou.
Merci Jacques Cheminade, c'était un plaisir et on aura vraiment plaisir à vous retrouver dans une prochaine émission parce que on a encore envie d'en savoir plus sur ce Sud collectif, ce souverainisme, toutes ces libertés, toute cette démocratie que vous appelez de vos voeux et puis cette dédollarisation de
et la ce planète. Faux souverainisme en France.
Voilà. Donc merci d'être venu et puis à très bientôt.
Merci Nasser.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.